Mulligan.
Hardigan présente You Want It Darker de F.C. Washington. Lu par Manon Jomain et Pierre Desuyers-Mont. Chapitre 1. Paris, mardi 4 avril 2023, 7h12. La foule grouillait sur le quai. C'était l'heure de pointe. Les odeurs se mélangeaient pour constituer une fragrance reconnaissable entre toutes. Bitume, gomme brûlée, œufs pourris et urine. Le cocktail pestilentiel du plus vaste nœud ferré de Paris, la station Opéra. Un problème que la RATP connaissait depuis toujours mais ne parvenait pas à régler, malgré un nettoyage régulier et pour cause. L'origine de ce mal était bien plus profonde que la saleté superficielle. Si nous refusons parfois de voir les évidences, d'autres fois, les évidences cachent ce que nous ne pouvons voir. En réalité, les fortes pluies peuvent en partie expliquer cette puanteur. Le secteur de l'Opéra, qui est enterré à une profondeur importante, présente la particularité d'être entouré d'une nappe d'eau souillée par les égouts, chargée en hydrogène sulfuré et dont le niveau augmente en période de grosses précipitations. Par infiltration, des traînées marron se forment alors sur les murs, générant une couche de mousse dans certains couloirs où sont parfois disposés des seaux, en désespoir de cause, pour recueillir les coulures humides et malodorantes. Les grands travaux menés de 2019 à 2021 et les tentatives d'absorption avec du charbon actif n'y ont pas changé grand-chose. Au milieu d'un groupe hétéroclite de personnes qui attendaient le métro, se tenait un homme de grande taille et à la carrure impressionnante. On ne pouvait pas le louper, il dépassait tout le monde d'une ou deux têtes. L'individu semblait perdu, le regard dans le vide. Le crissement des freins de la rame qui arrivait à grande vitesse perça l'air. Juste avant qu'elle parvienne à son niveau, l'homme se jeta sur les rails en prononçant ces mots. « Pour toi, France. » Son corps éclata en bouillie, comme celui d'un insecte qui s'écrase sur un pare-brise. Chapitre 2. Paris, samedi 4 février 2023. Comment écrire un best-seller lorsqu'on est une romancière inconnue? La solution à cette équation paraissait simple. 1. Écrire sous un pseudonyme à consonance américaine en laissant planer le doute sur l'identité du véritable auteur. Cela devait donner au public l'envie de découvrir quel écrivain célèbre se cachait derrière le roman et de construire une histoire qui allait devenir virale. 2. Apposer sur la couverture un bandeau vendeur de stars de l'écriture, ce que je parvins à faire après avoir convaincu Franck Tillier et David Fuenquinos. Le premier se fendit d'un « Ceci n'est pas une pub d'inspiration surréaliste » en référence à la pipe de Magritte, et le second joua sur l'humour en indiquant « Ne faites pas comme moi, lisez ce livre ». Lorsque Violaine Georgiadis, la patronne des éditions Alter Real, avait accepté de publier le manuscrit de best-seller, j'étais donc persuadée que toutes les conditions étaient réunies pour me mener au succès et que tout allait se dérouler comme mon mentor, Frank Schneider, l'avait prévu. Sauf que cela ne se passa pas du tout comme prévu. Car après le très prometteur Salon du Livre de Nancy, où j'avais signé une centaine d'exemplaires en moins d'une heure, les ventes restèrent au point mort. Une semaine après sa sortie, le roman naviguait dans le fin fond du classement sur les sites d'Amazon, de la Fnac et de Cultura. Puis, une consultation de placedeslibraires.fr me permit de constater qu'il n'était disponible dans aucune des 25 000 librairies de l'Hexagone.